de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Juste Fontaine, 1m74 de pur talent, meneur de jeu puis avant-centre, a fait les beaux jours de l'US marocaine, l'OGC Nice, le Stade de Reims et bien sûr de l'équipe de France. Il est l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du football français. Il inscrit un total de 289 buts lors de sa carrière, pour une moyenne affolante de 0,95 buts par match. Pourtant, son parcours professionnel ne fut pas des plus longs. Il s'arrête malheureusement en 1962 à l'âge de 29 ans, à cause de deux fractures successives de la jambe gauche. Mais rien n'arrête Juste Fontaine, qui sort la même année major de sa promotion des entraîneurs, prenant par la suite les rênes du PSG, qui fait monter en première division. Le compagnon d'attaque notamment de Raymond Kopa est l'incarnation même du football d'antan. Un talent et un flair incomparables, un véritable amour du jeu et une humilité à toute épreuve. Dans ce premier de 5 épisodes d'Avoix Nue, au micro de David Arthur, diffusé pour la première fois le 25 mai 2009 et réalisé par Franck Lilin, il raconte ses modestes débuts au Maroc. Homme de tous les sports, athlète formidable, il doit défier l'autorité paternelle pour pouvoir jouer au football. Mais son talent parvient même à persuader son père, qui avait peur qu'il se blesse, lui l'adolescent qui jouait avec les adultes. De ses débuts tonitruants à son arrivée en France en 1953, Fontaine dépeint avec une acuité et une précision aiguë un football qui prenait déjà une dimension tout autre qu'avant la guerre. Du terrain à la caserne, des vestiaires au fond du filet, le premier temps de l'Avoix Nue de Juste Fontaine, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Avoix Nue cette semaine, Juste Fontaine s'entretient avec David Arthur. Aujourd'hui, premier volet, prendre la balle au bon. À une époque où le ballon rond engendre les pires folies avec un champion du monde adepte du coup de boule dans le stade où Hitler, quelques décades auparavant, rageait en silence de voir un ange noir s'envoler, à une époque où des supporters échappés d'un zoo imitent le bruit de leur cousin, le bonobo, dès qu'un joueur qui a meilleure mine qu'eux touche le ballon, et à une époque où pour un but raté, un gentil freluquet semainier conciliant se prend d'une soudaine envie de faire valser sa douce étendre, il était temps de revenir à la beauté du geste et du sport. Ce sport rond, qui, il n'y a pas si longtemps, dans ses gradins et sur ses pelouses, regroupait fraternellement des amoureux du beau 4-3-3 et du sublime 4-2-4. Pour retrouver cette époque, où les sportifs étaient des artisans du rêve, nous sommes allés chercher sous le soleil du midi un dieu du stade qui officiait à une époque où le Zeus du ballon rond était un rouge-gorge et où le football était champagne. Aussi à l'aise du gauche que du droit, le ballon était aimanté à ses souliers. Mais rassurez-vous, généreux en toute occasion, il n'a jamais refusé de l'offrir à l'homme ganté qui se dressait face à lui au milieu des bois. Gardien qui, soit dit en passant, allait presque toujours chercher son offrande comme une pêche miraculeuse au fond des filets. Cette semaine, en sa compagnie, nous allons aussi dire merci à son Maroc natal, qui a eu la générosité de nourrir en son sein deux des plus grands sportifs ayant porté le coq gaulois sur la plus haute marche planétaire. Si Marcel Cerdan s'envole définitivement en pleine gloire un soir d'octobre 1949, Juste Fontaine, qui prône les mêmes valeurs humaines que ce grand frère de cœur, voit sa carrière de prodige stoppée net à la veille de l'épanouissement. Heureusement pour nous, ce n'était pas la mort qui passait par là, mais le préposé de la caisse de retraite du ballon rond. Juste Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Alors, à quel âge, Juste Fontaine, vos jambes ont touché pour la première fois un ballon?
Je m'en souviens pas exactement, mais je sais que c'était dans mon enfance, quoi. Et à l'époque, et je tiens à le souligner, parce que quand on parle des Brésiliens, des Argentins, on dit toujours ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris le football dans la rue. Et moi, c'était un peu le même cas, sauf que c'était dans la cour d'une église catholique. Bon, on a cassé quelques vitraux, on s'est fait enguirlander par le curé. Dans cette cour, il y avait des eucalyptus qui faisaient office de bois, quoi, de but. Et donc, c'était facile, entre les deux eucalyptus de chaque côté, on mettait une corde et puis voilà, on avait les buts, quoi. Alors, le terrain, c'était de la terre battue. Même, on peut dire, très battu, parce qu'il y avait des faux rebonds, il y avait des cailloux, enfin, bref. Et quand vous commencez à jouer là-dedans, si, sur le plan technique, c'est ce qui arrive aux Brésiliens, aux Argentins. Ils ont une technique avec le ballon, pas parfaite, mais presque. Et donc, l'école de la rue, pour moi, ça a été très bien. Parce qu'en plus, on jouait déjà contre, par exemple, dans mon quartier, on jouait des fois contre d'autres quartiers où il n'y avait que des indigènes, des arabes, et d'autres. Parce qu'il y avait le Mella aussi à Marrakech, il n'y avait que des juifs, donc on jouait des matchs comme ça. Alors, je vous dis pas, pour l'arbitrage, c'était assez... Parce que le fait que la barre transversale soit représentée par une corde, hein, pour... il y oui. avait des discussions, hein, parce que le ballon est passé au-dessus, toujours. Pour l'équipe attaquante, elle était passée en dessous, pour l'équipe qui recevait, elle était passée au-dessus. Enfin, malgré ça...
C'était un football qui était très contact.
Oui, oui, sur le terrain, mais sur après, terrain. C'était... Il n'y avait pas de racisme, c'est que quand vous êtes gosse, il n'y a pas de racisme, parce que vous voyez que l'autre est noir, ou il est basané, tout ça, mais fait, pour vous, ça n'a aucune importance, puisque à l'école et partout, vous êtes dans la même situation.
Vous avez appris pieds nus ?
Oui. Et puis, quand on a commencé à jouer, disons, dans un club officiel, et moi j'ai eu
un opposant.
Un empêcheur de tourner en rond, c'était mon père, parce que...
Delphin Fontaine ?
Oui, il a fait tous les sports, il était gardien de but au foot avec 1m58, ça veut dire qu'il était ambitieux. Il a été arbitre en plus, après.
Et... De foot et de rugby, je crois, non,
oui,
c'est ça ?
Oui, ouais. Oui, les deux, et puis... seulement, à l'époque, l'état civil au Maroc, c'était pas... parfait, quoi. Ça veut dire que quand vous jouiez dans les catégories inférieures, minimes, KD junior, vous tombiez avec des gens qui avaient 30 ans, où le fils joue en KD, le père en junior, parce que, en plus, c'était accentué par le fait que c'était des berbères qui n'avaient pas de poils. Et donc, il avait peur que je me fasse casser une jambe, donc il a décidé, quand j'étais au lycée, que je ferais tous les sports sauf le foot.
Il avait peur parce que vous étiez un enfant fragile ?
Non, non, de jouer contre des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi et où
puis vous êtes né
qui
avec...
avaient un engagement physique.
Vous êtes né avec une rotule un peu particulière aussi.
Non, vers 15-16 ans justement, un médecin m'a dit que j'avais la rotule en deux morceaux, là. Patella bipartita, je m'en souviens. D'abord parce que je faisais du latin. Et surtout parce qu'il me disait qu'il faudrait que j'arrête le sport, quoi. Alors, vous rendez compte, à 15-16 ans, quand vous faites que ça et vous n'aimez que ça. Heureusement, j'ai vu un autre praticien qui m'a dit que ça pouvait arriver, que ça ne changerait en rien mon destin futur de footballeur ou de sportif, quoi.
Oui, d'ailleurs, elle a tenu la rotule. Hein.
Oui, la preuve,
elle est intacte. Hein. Alors, ce père qui est fan de sport et qui s'oppose à ce que vous pratiquez,
oui,
le foot.
C'est... Non, il s'oppose, si vous voulez, il voulait me protéger. Et en même temps, il savait que j'aimais ça, quoi, comme lui. Donc, un jour qu'il arbitrait un match de mon lycée contre un autre, un match amical, j'ai eu l'idée saugrenue. Mais finalement, payante, quoi. C'est de dire au prof de gym qui accompagnait l'équipe, de dire « j'ai enfin l'autorisation de mon père ». Ils m'ont dit « oui, mais on n'a pas reçu de lettre écrite ». Ils ont dit « oui, mais il arbitre, vous comprenez bien que s'il arbitre et que je rentre dans l'équipe, c'est que j'ai l'autorisation ». Alors ils m'ont cru. Et donc ils m'ont fait rentrer à la mi-temps. Mon père, qui, comme tous les arbitres, contrôle les effectifs, il me voit, il me dit « qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je vais jouer ». Il dit, bon, on réglera ça à la maison. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un bon match, je ne m'en souviens pas, mais le soir, il m'a dit, bon, ça va, tu peux jouer.
Bon, et alors, après ça, vous intégrez l'association sportive de Marrakech ?
C'est ça, oui. Les couleurs sont vert et blanc. C'est un club qui n'a pas beaucoup de moyens. Parce qu'il y avait un club, le Sport Athlétique Marrakechi, le SAM. Les couleurs étaient noires et blanches. Qui était en première division, quoi. Et l'ASM était en seconde division. Bon, mais nous, dans les catégories inférieures, on ne s'occupait pas de ça. Et on a réussi à être champion du Maroc en cadet, quoi.
Ça sent quelle année à peu près?
Je sais pas, quoi, en 49 47, 48.
47, 48.
Oui. Et on avait battu Meknès, où il y avait un certain Milazzo qui a joué avec moi à Nice après, quoi. Et puis, quand j'allais passer la première partie de mon bac, j'étais renvoyé du lycée pour un chahut collectif, dont j'étais, pour une fois, et je précise bien, j'étais pas responsable du tout, quoi. Donc non, j'étais le bouc émissaire.
On paye toujours la seule fois qu'on n'est pas responsable.
Voilà. Non, j'étais pas responsable. Il m'a envoyé chez le proviseur et... par le vasistas de la porte d'entrée de la classe, j'ai dit au revoir à mes amis, quoi, parce que je savais que j'allais pas les revoir de si tôt. Et lui a dit que j'avais fait un bras d'honneur, parce que c'était vraiment excessif, et je vais vous dire pourquoi après. Et donc, mon père m'a enfermé dans ses bureaux, là, à la régie des tabacs. Comme j'étais enfermé, j'étudiais bien, et puis voilà, j'ai réussi la première partie de mon bac. En auditeur libre, en quelque sorte. Et ce qui a fait que l'année d'après, il fallait que je continue mes études pour passer la deuxième partie. Et heureusement pour moi, il y a un club de Casablanca, l'US Marocaine, qui a décidé de m'engager et de payer mes études comme interne à Casablanca, au lycée Lyautey, en échange de mes services de footballeur, quoi.
Mais alors, pour que ça arrive, ce genre d'événement, oui. Vous étiez déjà une petite vedette dans le milieu du football ou pas?
Non, parce que là, à
l'époque... Donc, on parlait de vous, vous
avez... Oui, on parlait de moi, mais j'étais presque meilleur au basket qu'au foot. Et je vais vous citer une anecdote, c'est que, justement, au lycée, on recevait le collège industriel à Casablanca. J'ai joué la première... Les matchs allés, j'ai joué au football contre l'école industrielle. On a gagné 3-0. Le basket a perdu. Et au match retour, ils ont dit, bon, comme au football, ils vont pas remonter 3 buts, on va te faire jouer au basket. Et c'était pour le bien de l'école, bon, j'ai accepté. Alors, on a gagné au basket, et le match avait lieu dans l'après-midi, mais comme un match de basket dure moins longtemps qu'un match de foot, je suis allé voir la fin du match de foot. Et là, ça a été une catastrophe, parce que l'équipe a perdu 4-0, donc...
Mais donc vous êtes essentiel au ballon pour gagner?
Non, ce jour-là peut-être, mais ça ne veut pas dire que si j'étais resté, on aurait gagné. Bref, ma vie, mon adolescence, c'est du sport, et que du sport, parce que d'abord, l'argent de poche, je n'en ai jamais eu, je ne savais pas ce que c'était. Seulement à Marrakech, il y avait un climat magnifique, hein, du soleil tout le temps, et le sport, quoi. Et avec le sport, on pouvait... dépenser son énergie, et puis ça me plaisait, quoi. J'ai tout ce qui était rond, ça me plaisait, quoi. Et puis, voilà, donc quand le club de Casa m'a contacté, le club de Marrakech, dont l'économe faisait partie, les rivaux de l'AS Marrakech, le SAM, ils m'ont proposé de me reprendre à condition que je joue avec eux, quoi. Et ça, le chantage... D'abord, à Marrakech, c'était une petite ville, donc si vous changez de club, vous étiez le traître. Là. Un peu comme Ronaldo, maintenant, quand il va à Milan, après avoir joué à l'Inter, quoi.
Oui, mais surtout qu'à Casa, en plus, vous aviez des moyens énormes, puisqu'on vous avait fait une petite chambre dans un vestiaire sur le
non,
stade.
Non, ça, c'est après, c'est la après, deuxième année. La première année, j'étais interne au lycée.
Oui.
Et donc, je jouais qu'en fin de semaine avec les juniors de l'US marocaine et... J'étais sélectionné aussi en équipe nationale du Maroc, junior. Et puis, justement, à l'occasion d'un match Oranie-Maroc, Maroc-Oranie, puisque ça joue à Casablanca, Zatelli est venu voir un joueur senior de l'équipe du Maroc, qui s'appelait Abdeslem, qui est d'ailleurs venu jouer après en France. Il a joué à Bordeaux et à Nîmes. Il a même été international. Une fois contre l'Irlande, il me semble. Comme il était venu voir le match des seniors, il est venu voir les juniors, quoi, dont je faisais partie.
Alors, qui était Mario Zatelli pour
Mario Zatelli, ben, il était entraîneur, co-entraîneur de Nice à l'époque, avec Andouar, quand ils ont fait le doublé, là. Et donc, il m'a vu jouer en levée de rideau, j'ai marqué 2 buts de 25 mètres, un du gauche, un du droit. On a gagné 2-0 et comme il avait joué dans le temps à l'US marocaine là, et qu'il connaissait les dirigeants, il leur a dit, celui-là, leur a dit, écoutez, soyez gentils, ne le prenez pas tout de suite parce qu'on a encore besoin. Mais dans un an ou deux, vous pourrez, quoi. Et c'est lui qui m'a signalé à Nice, quoi. Et 2 ans après, j'ai signé. Et entre-temps, on a été champion du Maroc senior. Et on a gagné la Coupe d'Afrique du Nord. Et entre-temps, donc, comme j'étais... Je promettais au football, déjà. On m'a fait un appartement dans un ancien vestiaire du stade, qui s'appelle maintenant le stade Larbi Ben Barek, et qui s'appelait le stade Philippe à l'époque, quoi. Et donc, j'étais logé. On dit souvent que quand un mec aime le ballon, il dort au stade. Moi, j'ai dormi, ouais. Effectivement, même pendant 2 ans. Et puis, j'étais prof de gym, grâce au sélectionneur qui était dans l'enseignement.
Donc là, l'argent commence un petit peu à arriver,
Non, que des primes. Et moi, j'ai gagné après un salaire, là, c'était autre chose. Mais surtout, les deux équipes que j'ai entraînées ont été championnes de la Chaouia, c'est-à-dire en basket et en foot, en cadet. Alors évidemment, on a dit que j'étais un bon entraîneur déjà. Et j'avais quoi, 18 ans, 19 ans. Et donc après la finale de la Coupe d'Afrique du Nord, que nous avons joué contre le WAC, qui était une équipe de Casablanca aussi, on a fait 2 matchs, le premier 0-0 après prolongation, personne dans les 18 mètres. Et le deuxième, à 10 minutes de la fin, j'ai marqué un but de la tête. On a remarqué un second but. Bref, il commençait déjà à y avoir les événements, là. Ce qui fait qu'on a pris la coupe et on est vite rentré au vestiaire parce que notre équipe, il y avait moitié indigène, moitié français. Tandis que l'autre équipe était que des indigènes, quoi. Donc, on n'a pas insisté, on n'a pas fait de tour d'honneur, ni rien. Et à la suite de quoi, j'étais demandé par Nice, on est venu me chercher. Et en juillet 53, je suis arrivé à Nice, quoi, comme là, professionnel. Voilà.
Là, à ce moment-là, vous vous rendez quand même compte que vous n'êtes pas comme les autres, qu'il y a un petit truc en plus ou pas?
Ben oui, je suis le premier meilleur buteur du Maroc. On parle de moi, parce que je suis jeune.
Vous avez un peu, un peu le melon ou pas?
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Votre père vous est relativisé?
Non, parce que moi, au Maroc... Le niveau est... On a fait, par exemple, un match Maroc contre la France, B, à Marseille, le 25 décembre 52, vous voyez. Et le gars qui me marque, c'est Kader Firoud, que j'ai retrouvé après à Nîmes comme entraîneur, etc. Et qui avait une expérience, quoi. Et nous, on avait la paire d'Inter, c'était... Scanella et moi qui avions 35 ans, quoi, ou 36 ans, nous deux, quoi. Et donc, on manquait d'expérience, on a perdu le match 3-0, mais enfin, c'était une bonne expérience. Et donc, on pouvait pas avoir le melon parce qu'on voyait qu'on n'était pas encore au niveau des professionnels français.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Larbi Ben Barek.
Ah oui, c'était...
Qui est un joueur sublimissime.
Oui, c'est quelqu'un qui aurait mérité...
Que la télévision
existe. Une notoriété, voilà. Si la télévision avait existé à l'époque, il aurait été starisé beaucoup plus tôt que Pelé et tout ça, parce qu'il avait tout. Et il a eu la malchance, pendant la guerre, de ne pas pouvoir exercer son talent en France, quoi. Donc il est allé en Espagne, à l'Atlético de Madrid, où il a gagné quelques titres. Et c'est quelqu'un qui a joué jusqu'à 40 ans. Il avait tout, quoi, la technique, les feintes.
C'était Pelé d'ailleurs qui disait
c'était un athlète, oui.
Pelé disait, si je suis le roi du football, ouais. Ben Barek en est le dieu.
Oui, il a dit ça pour lui faire plaisir, parce qu'on a dû lui raconter. Mais c'est vrai que s'il y avait eu la télévision, ça aurait été une des premières stars. Et moi, c'était mon idole, parce que au Maroc, c'était Ben Barek, quoi, comme le Pelé au Brésil.
Et vous alliez le voir jouer dans...
Oui, je l'ai vu jouer, oui. Mais surtout, quand je suis arrivé en France, il jouait à Marseille encore. Il avouait avoir 38 ans, mais en fait, il en avait 40. Et donc, il s'est trouvé qu'on a fait la finale de la Coupe de France 1954, c'était Nice-Marseille. Moi, j'avais 20 ans et j'ai rencontré Ben Barek, qui était à l'OM, qui en avait 40, quoi. Et on a gagné. Bon, j'étais heureux d'avoir gagné, mais j'étais triste pour lui. Et il a encore fait un match avec l'équipe de France en... Je crois que c'était en octobre 1954, où il a été remplacé parfois, et la France a battu l'Allemagne. Il avait encore une sélection, vous vous rendez compte.
Comment on joue un match face à quelqu'un qu'on a admiré quand on était môme? On se retrouve sur le même terrain, on est quasiment face à lui.
Non, mais c'était...
Est-ce qu'on est spectateur à un moment pendant le match, ou pas? Comment ça se passe?
Le fait est que il nous avait battu à Nice, en championnat, et il a marqué deux buts, dont un de la tête, c'était un chef-d'œuvre, quoi. Mais le problème se posait pas comme ça pour moi, parce que moi, on ne devait pas se rencontrer sur le terrain. Lui, il était Inter du côté marseillais, et moi de l'autre côté, donc. On s'est pas rencontré, mais évidemment, j'avais peur de sa technique et tout ça.
Non, mais je veux dire, vous le regardiez jouer de temps en temps pendant le match?
Non.
Non, voilà,
on
occulte complètement.
On s'est vu avant, j'étais très content de le rencontrer, puis surtout d'avoir enfin l'occasion de jouer contre mon idole du Maroc, quoi. Bon, ça s'est pas bien passé pour lui, ils ont perdu 2-1. Moi, j'ai fait marquer le premier but sur un centre, et à 20 ans, parce qu'à l'époque, quand vous veniez de signer pro, vous ne jouiez qu'en pro. J'ai attendu pour jouer, je suis arrivé en juillet, j'ai joué mon premier match en octobre. C'est-à-dire que je ne pouvais pas jouer en réserve. Il n'y avait pas de CFA à l'époque. Et quelqu'un qui était pro ne jouait pas. S'il ne jouait pas dans l'équipe première, il ne pouvait pas jouer. Il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas de CFA. Donc j'ai attendu mi-octobre pour jouer mon premier match. On a joué contre Bordeaux, qui était leader du championnat et qui a d'ailleurs gagné le championnat. Et heureusement pour moi, on a fait un bon match, on a perdu 4-3. J'ai marqué un but et donc, à partir de là, j'étais titulaire. J'ai marqué 18 buts cette année-là et puis, sans jouer tous les matchs, et on a gagné la Coupe de France, donc c'était magnifique.
Vous aviez quoi comme réputation à l'époque? Vous étiez quelqu'un d'un peu dur, un peu...
Mais non, j'étais jeune, donc j'ai appris, tout ce que j'ai appris du football, c'est sur le tas, sur le terrain, quoi. J'étais presque trop collectif à l'époque. Moi, c'était des déviations, etc., pour les autres, mais je n'étais pas personnel, quoi.
Parce que votre premier entraîneur à Nice,
oui.
C'est Georges Berry?
Oui, c'est un Anglais. Oui.
C'est un Anglais.
Alors, c'est marrant parce que quand il faisait les séances, il disait « mâcher ». Au lieu de dire « marcher », il disait « mâcher ». Puis il y avait un goal qui s'appelait « mâcher ». Alors il se tournait, il disait « mais pourquoi il m'appelle tout le temps ?» Pour courir, il disait « courrier », alors tout le monde disait « tiens, il y a le facteur qui arrive », enfin bref. C'était assez marrant, et puis...
Il vous a dégrossi ou pas? Il vous a...
Non, ce qui m'a dégrossi, c'est les matchs. Hein. Bon, lui, il était assez sympathique et tout, et puis, mais un jour, la deuxième année, il me dit « un jour, tu joues pas dimanche parce que tu te maries lundi ». Alors, je me suis posé la question en disant, mais je comprends pas bien, parce que si encore je m'étais marié samedi, je comprendrais qu'il ne veuille pas que je joue le dimanche. Parce que normalement, je serais fatigué, quoi. Et il se trouve que quelqu'un était blessé, que j'ai joué, que j'ai marqué deux buts, donc je ne pouvais plus avoir de respect après. Pour M. Berry, alors que j'en avais jusque-là, quoi. Et ensuite. La deuxième année, j'ai marqué 20 buts. Mais il faut dire que pendant les 3 ans que j'ai joué à Nice, il y a 2 ans où j'étais à l'armée. Donc je jouais tous les matchs à l'extérieur. J'étais au bataillon de Joinville. Et donc à part les matchs contre le Racing ou le Stade français, tous les autres matchs, pour moi, c'était des matchs à l'extérieur. Je prenais la...
Passer votre vie dans le train.
Voilà. Parce qu'à l'époque, il fallait une nuit entière pour aller à Nice, quoi. Le retour, pareil.
Finalement, vous êtes un bon exemple pour les joueurs qui aujourd'hui rouspètent en disant que le championnat est beaucoup trop long, qu'on joue beaucoup trop. Mais,
non, mais
vous faisiez combien de matchs à l'époque? Époque de Saint-Simitaire.
Non, mais c'est pas le problème. C'est surtout que quand on a 20 ans, on est quand même plus. on se fatigue moins que quand on a un peu plus. Et à l'époque, donc moi, la première année, j'ai pas joué tellement que ça. J'ai marqué 18 buts, mais j'ai dû faire la moitié des matchs. La deuxième année, j'ai marqué 20 buts. Mais je jouais toutes les semaines aussi avec l'équipe de France Militaire. On faisait des matchs amicaux, plus les challenges Cantich, tout ça. Alors quand on gagnait le match, on avait la permission jusqu'à lundi d'après. Et si on perdait, le lendemain, on faisait du maniement d'armes à 5h du matin. Enfin, c'était... Et ça durait quand même 30 mois, ça. Parce qu'à l'époque, j'étais dans les rappelés, alors... Oui, il y en a qui sont allés en Afrique du Nord, et moi, comme j'avais un frère qui était, on m'a dispensé d'y aller, quoi.
Oui, finalement, vous êtes devenu un grand buteur, parce que, en premier lieu, vous aviez peur que votre père vous voie jouer, donc vous étiez rapide et vif, et il fallait marquer vite. Et en deuxième lieu, vous aviez peur, finalement, d'aller faire du maniement d'armes le lundi matin, donc ça vous poussait, ou...
Non, mais il fallait que ça pousse les 10 autres aussi, parce qu'eux aussi étaient intéressés par la perme, hein. Parce que sinon, on était 11 à faire le maniement d'armes aussi. Mais enfin, il faut dire que des matchs amicaux, on n'en perdait pas beaucoup à l'époque. J'ai commencé avec Coppa, Ujlaki.
Vous jouiez quoi ? Numéro 10 ?
Non, oui, voilà. J'ai commencé numéro 10.
Alors que vous étiez plutôt un 9 dans l'âme, non ?
Oui, mais au Maroc aussi, je jouais numéro 10. Parce que peut-être on pensait que j'étais assez fragile, quoi. J'étais assez maigre à l'époque. Et puis, j'ai joué avant centre la troisième année, quoi. Et là, j'ai commencé à jouer avant centre. Et j'ai appris beaucoup d'un joueur qui s'appelait Ruben Bravo, qui est arrivé à Nice, il avait déjà 33 ans. Hein. Il avait un jeu de tête exceptionnel. Pas seulement pour la détente, mais pour les déviations, la précision de son coup de tête. Et j'ai remarqué, en le regardant jouer, qu'il était toujours démarqué. Alors j'ai bien étudié son jeu, surtout quand je jouais pas, et il faisait des appels indirects. C'est-à-dire que quand il voulait la balle au pied, il faisait semblant de démarrer. Et évidemment, le gars qui avait la balle de Nice, il savait que s'il faisait ça, c'était pour l'avoir au pied. Puis il faisait l'inverse. S'il la voulait en profondeur, alors qu'il était pas rapide, il venait vers le porteur du ballon, comme si vraiment il voulait la balle au pied, puis pouf, il démarrait. Et si on lui donnait la balle au bon moment, s'il y avait un bon timing, bien qu'il ne soit pas rapide, il prenait le pas sur le gars qui était en sens inverse au moment du départ de l'action, quoi. Et donc j'ai beaucoup appris avec Ruben Bravo, qui en plus était quelqu'un de convivial. Vraiment, lui, il m'a appris. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris comme ça.
Mais sur le tas.
Quand j'ai vu Pelé la première fois... La première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop regardé parce qu'il nous a mis 3 buts, donc j'avais d'autres soucis. Mais le jour de la finale en 58, j'ai regardé jouer et j'ai marqué un but après avoir copié une action qu'il avait fait ce jour-là, où lui, il avait mis le tir sur la barre alors que moi, je l'avais marqué. Mais 2 ans après, quoi. Il a fallu assimiler tout ça avant. Mon seul regret là-dedans, c'est que j'étais pas arrivé à mon apogée quand j'ai arrêté, quoi. Parce que tout ce que j'ai appris à partir de 20 ans, c'est sur le terrain. Et en regardant jouer les grands joueurs, les Hongrois...
L'époque de Puskás.
Ma première sélection, c'est Puskás. On a perdu 2-1 et j'ai couru après Bozic, qui normalement aurait dû me marquer. Mais comme on avait joué avec 2 avant-centres ce jour-là, ce qui était rare à l'époque, hein, Krzyzowski était... plus ancien que moi, donc il a joué avant-centre et moi j'ai joué ce que j'ai pu derrière. Et Bozic aurait dû me marquer, mais en fait c'est moi qui ai couru derrière, quoi. Et on a perdu 2-1 avec un but de Coxis en fin de match, quoi. Mais c'était... Ils avaient perdu un match en 4 ans. Hein. C'était très beau à voir jouer.
C'était le premier de 5 épisodes de La Voix Nue de Juste Fontaine au micro de David Arthur, diffusé pour la première fois le 25 mai 2009 et réalisé par Franck Lilin. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.